Il l'avait dit, le monsieur. Salut, Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Accès libre avec Luc Fortin.
Allô, allô, j'espère que ça va bien. Ben oui, lundi 7 janvier, c'est redémarré pour accès libre, plusieurs horaires également. Entre au bureau, regarde les dossiers, disent aïe, 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 hein, il y a encore des choses à faire cette année. Avant de regarder 2019, dans les prochaines minutes, on va faire un dernier coup d'œil sur 2018, un petit récapitulatif avec Benoît Racette. Linda Gauthier vient nous conter sa vie. Souvent, on entend parler de Linda ou on lit Linda avec ses impressions sur tel ou tel enjeu. Mais là, j'ai envie de parler à Linda de Linda. Laurence Parent nous parle de capacitisme. Et avec notre psychologue en résidence, François Côté, on poursuit pour aider ceux et celles qui vivent en réadaptation, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois, c'est pas toujours évident. Jean-Sébastien Laliberté.
Bonjour Luc Fortin.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ouais, merci beaucoup Jean-Sébastien qui est à la mise en onde en 2019. Et est-ce que des bébés en vue? Est-ce que tu fais l'année au complet?
de mon côté, on va se concentrer sur les enfants qui sont déjà au monde.
D'accord, d'accord. Bonne idée. Benoît Racette, est-ce qu'il y a des bébés en vue? Est-ce que
vous
faites l'année au complet?
Ah, moi j'ai déjà fermé la boutique il y a 15 ans.
Ouais, moi aussi j'ai fermé. Ah, moi j'ai fermé avant vous.
Ah, bon.
Ben ça fait plus longtemps en fait. Ouais.
Pour vrai?
Ouais, ben moi il y a 27 ans.
Pour vrai?
La vôtre est plus jeune.
Ben oui, elle a 15 ans.
Ouais. D'ailleurs, ouais. Je ne l'ai jamais vue. Moi, je le crois toujours pas.
Ouais. Oh, mais j'ai l'impression qu'elle va un jour défendre les droits.
C'est dans les gènes?
Un petit peu.
OK, ben, c'est bien ça. On a besoin de gens comme elle, comme vous. C'est avec toi que je voulais revenir donc sur 2018. Regarder un peu les bons coups, les moins bons coups. Je sais que j'écoutais Linda faire un peu le même exercice avec les capés de Michel Bédard à Québec.
Effectivement.
Et Linda était plus ou moins satisfaite. Il a fallu que Michel lui montre des bonnes nouvelles parce que je pense qu'elle l'a trouvé difficile son année. Mmh. Toi, comment t'as vu 2018 à rebours, là?
Ben, de base, nous sommes en retard.
OK.
Donc, ces gains de cette année, ou ces avancées, il n'y a pas juste des gains, il y a plutôt des avancées, font que, bien sûr, on peut avoir le sourire, mais au net, on va passer vite.
OK.
Ce serait ma manière de le dire, je dirais.
Commençons avec janvier.
Ben, janvier, c'est surtout à cause de la réminiscence d'une belle annonce qui avait été faite en septembre. En fait, le bureau du taxi de Montréal recommandait l'adoption d'une norme de service pour les personnes à mobilité réduite. On parlait de Linda Gauthier qui était à ce moment-là en campagne électorale à Montréal comme aspirante conseillère du district de Laurier. Elle avait salué ça hein, parce que ce que ça voulait dire, c'est que les taxis disaient « Bon, on aimerait ça, le bon an mal an, qu'en 2 ans, il y ait une norme d'offre de services pour les personnes en situation de handicap dans les taxis. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire, une norme de service? Et comment... Il n'y en avait pas?
En fait, c'est compliqué. C'est que un contrat qui lie les taxis à la STM, qui offre du transport adapté. Mm-hmm. Mais en dehors de ça, quand c'est pas du transport adapté, il n'y a pas d'obligation en tant que telle pour les compagnies, ou il n'y avait pas d'obligation pour les compagnies d'offrir du service comme du monde. Il y avait un petit projet pilote. On n'a jamais vraiment compris comment ça fonctionnait, mais le PHQ en 2014 avait proposer un projet de transport d'urgence. Alors là, vous avez, par exemple, des gros problèmes de santé, comme c'est déjà arrivé, ou si quelqu'un qui vous est cher tombe malade, va à l'hôpital. Bref, vous devez vous déplacer immédiatement. Les compagnies de taxi étaient censées offrir ce service d'urgence-là, mais dans les faits, honnêtement, elles n'ont jamais vraiment bien fait ça.
OK.
Donc, il y avait une nouvelle norme qu'on souhaitait voir appliquer. Il faudrait demander à Linda ce qui s'est passé avec, parce que le bureau l'a adopté formellement, mais je ne le retrouve pas dans le nouveau plan d'action là, de la Ville de Montréal. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec ça.
Oui, mais ça peut être un sujet intéressant. On va mettre notre nouvelle recherchiste là-dessus.
Voilà.
Ça a été difficile. On a... Accès Libre a été dur sur les recherchistes en 2018.
Oh là là! C'est vrai que ça commande beaucoup. On doit fouiller beaucoup parce que cette année, là, on pourrait faire plein de revues de presse, ouais. Plein de revues de l'année, mais il y a eu beaucoup d'actions politiques en peu de temps.
Mm-hmm.
Entre autres, en février ou en mars, il y avait l'écho et même l'instauration d'un revenu de base pour les personnes handicapées.
En général, ça a été bien accueilli, mais pas par tous.
Bien, il faut savoir le contexte. D'abord, ça vient du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale qui a été déposé par le gouvernement libéral mm-hmm. un peu plus tôt avant. L'idée maîtresse,
plus tôt avant, j'aime beaucoup.
C'est-à-dire en 2017, ouais. Ça, je veux dire. Parce qu'il y a eu adoption d'une loi qui a donné un revenu de base pour les personnes handicapées, mais avant, il faut se rappeler que ça s'inscrivait dans une démarche de lutte à la pauvreté. En tout cas, c'est ce que voulait faire le gouvernement.
Okay.
Il parlait d'un revenu de base pour tout le monde. Vous comprenez? C'était
ouais,
ça,
ouais.
La première proposition. Finalement, ce qui s'est passé, et permettez-moi ce commentaire critique, c'est qu'on a proposé quelque chose aux personnes qui avaient des contraintes sévères, donc souvent les personnes en situation de handicap, mais un peu en compensation. Plutôt qu'en donner à tout le monde, comme c'était la première proposition, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller voir le groupe qui rush le plus.
Qui est plus lourdement touché.
Puis on va comme un peu, comment je pourrais dire, sauver la face ainsi.
Mais c'est sûr que c'est moins coûteux pour l'État.
Exactement.
Ouais.
Sauf que la COFAN, par exemple, qui regroupe la Confédération des groupes de personnes handicapées du Québec, a quand même fait une consultation auprès de ses membres. Et tout le monde était pas mal d'accord pour ça, sauf les groupes qui se disaient « Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je n'ai plus été une personne qui avait des contraintes sévères à l'emploi puis que je reviens dans le giron des personnes qui ont des contraintes sévères? » Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore un peu flou. Puis, qu'en est-il de notre solidarité? Qu'en est-il de la lutte à la pauvreté pour tout le monde? Alors, globalement, majoritairement, le mouvement était content de ça, mais
en 30 secondes, la différence entre aide sociale non accessible au travail, là, je ne me souviens plus exactement de l'expression, et le revenu de base minimum.
Ben, en fait... Est-ce que
l'enveloppe est plus grosse? Est-ce que...
La mesure là, qu'on défendait, c'était en fait c'est la mesure du panier de consommation. Donc ça, c'est ce qu'il faut au minimum pour être capable de vivre, là, c'est payer les vêtements, la bouffe, le loyer. Là. Ça c'était à peu près 17 000 $ pour une personne seule.
Okay.
J'y vais très roughement.
Okay.
L'aide sociale, c'est tout à fait autre chose.
Oui, c'est. Oui.
L'aide sociale, en fait, il y a l'aide sociale pour les gens qui n'ont pas de contraintes, puis la solidarité sociale... soutient deux autres groupes. On appelle ça souvent la solidarité sociale. Là. Les personnes qui ont des contraintes temporaires à l'emploi puis les personnes qui ont des contraintes sévères là, puis totales.
Ouais. Donc, mais parce qu'on est juste rendu au mois de mars puis il te reste 3 minutes.
Oui.
Donc, ce que tu me dis, c'est que le revenu de base minimum est quand même... C'est une majoration par rapport à, assité sociale non disponible au travail.
Oui, exactement.
Okay,
les gens ont eu une cinquantaine de piastres de plus sur leur chèque mensuellement.
Okay, on n'est pas à 17 000.
Non, pas encore.
OK, Walmart.
Walmart.
Ça a été positif. Ben, pas au départ, mais...
Au départ, c'était un Walmart Gate au tout départ. Rappelez-vous, le 29 mars 2018, les magasins Walmart annonçaient qu'ils mettaient fin à leur programme d'intégration au travail.
Oui.
OK? Donc, c'était essentiellement des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Mm-hmm. On s'entend, là, il ne s'agit pas de payer ce monde-là au même prix que les autres. Là. C'est un programme spécifique. Mm-hmm. Voilà. Et ils ont fait, évidemment, marche arrière devant la pression publique. Bon, ça a affecté même la marque Walmart. Là. C'est un programme qui est censé être spécifique, mais les gens l'ont vu vraiment comme quelque chose qui dénotait d'un esprit sans cœur chez Walmart.
Et ce qui a été intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça a commencé, du moins ça s'est su comme étant une succursale.
Mm-hmm.
Et là, on s'est rendu compte que non, c'est pas une succursale. La maison mère avait décrété 2-3 jours avant que non, on arrêtait ce programme-là. Et pour une des rares fois, il n'y a pas que les personnes handicapées qui ont réagi. Là, ça a dérangé pas mal de monde.
Oui, surtout que c'était pas des montants importants.
Non, c'est ça.
Puis, au-delà du fait d'avoir de l'argent, c'est des moyens clairs pour ces personnes-là de vivre une véritable inclusion.
L'estime de soi, puis...
Par ailleurs, je vous renverrai à la Commission des droits de la personne qui a formulé un avis en fin d'année, là, même en décembre, qui rappelait évidemment les événements de Walmart et qui disait « Mais il existe un programme d'accès à l'égalité pour l'État, les employés de l'État, il faudrait l'étendre aux entreprises. » Et donc, ce que ça soulevait aussi, c'est ben, il va falloir payer ce monde-là décemment éventuellement.
Ouais.
Hein? Bon.
Parle-moi de la modification au Code du bâtiment.
Ah, ça, c'est une histoire. En fait, bon, vous le savez, c'est une revendication historique. Hein? Dans le Code du bâtiment, on sait qu'il y a des dispositions pour rendre des logements accessibles selon certains critères. Sous Sam Ahmad, quand il était responsable de l'aménagement du territoire puis du logement, il y avait eu des demandes, des revendications qui avaient été faites et ça avait vraiment choqué parce qu'il avait refusé en bloc. Ça, je pense, c'est en 2015, si je ne m'abuse. Il y avait plusieurs demandes qui avaient été faites. Entre autres, parmi ces groupes-là, il y avait Société Logique là, qui avait formulé des demandes, etc. Là, ce qui s'est passé cette année, et là, laissez-moi retrouver mon petit papier. Je vais retrouver la date. C'était quelle date?
Avril. Moi, j'ai ça sous avril.
C'est avril. Je vais trouver avril. Donc, en avril, on fait une proposition, même un peu avant, d'inclure deux catégories de logements dans les nouveaux logements, c'est-à-dire minimalement accessible et adaptable. OK? Donc, ça a l'air compliqué, là, mais minimalement accessible, tu te rends jusqu'à la porte. Hein?
Ouais.
De chez vous.
Okay.
C'est assez normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marche, bon, s'il y a un ascenseur, etc. Et adaptable, c'est à l'intérieur du logement qui est un peu plus... En fait, qui est minimalement adapté pour que tu puisses aisément te déplacer, par exemple, si tu es en fauteuil, etc. Donc, ça, ces demandes-là, je dirais que c'est minimal. Puis là, on ne va pas rentrer dans les détails. Là. Il y a des gens qui souhaitaient qu'on aille plus vers l'universellement accessible, c'est-à-dire que ça réponde à des plus hauts standards, ou encore que tous les logements soient au moins adaptables.
Mais en bout de ligne, là, qu'est-ce qu'on peut faire là, dans le sens... Moi, j'ai mon logement ou j'ai ma maison. Comment ça influence construction ou la rénovation?
Il ne s'agit pas d'anciens bâtiments.
OK, OK. C'est les nouvelles constructions.
Quand on fait de nouvelles constructions, au minimum, il faut penser à ce que ça soit minimalement accessible.
Okay.
Voilà. Okay. Et il y a l'option chez les promoteurs d'offrir des logements qui sont adaptables. Donc, qui sont un peu plus accessibles. Mais il y a des différences, en fait, c'est ça qui avait soulevé l'ire un peu, c'est qu'il y a une différence à peu près de 250$ entre les deux options, en moyenne, par unité, et on n'a pas voulu le rendre obligatoire. Par ailleurs, beaucoup d'organismes se sont dit, ça fait si longtemps qu'on fait des demandes pour le logement dans le code du bâtiment, ben on va pas chialer.
Oui, on prend ce qu'ils nous donnent.
On prend ce qu'il y a. C'est
bon,
un livre.
Je vous reparle à Edmi. Parce que vous êtes trop généreux, puis je veux parler à Linda. Alors, vous allez être obligé de revenir pour la deuxième partie de l'année, parce qu'on ne traînera pas l'année pendant 6 semaines.
Mais non, faut passer à autre chose. Non, mais je vais vous parler brièvement des élections en décembre.
Fait que on va commencer en juillet. Vous me disiez première lecture de C-81 en juin, mais comme il a été adopté au mois de novembre-décembre, on le fera en novembre-décembre.
C'est ça.
C'était la Journée internationale du braille, 4 janvier dernier, donc vendredi, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écouter des musiciens aujourd'hui qui ont vécu ou qui vivent encore avec un handicap visuel. On commence avec Stevie Wonder, If It's Magic, sur Canal M.
If it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines, like the poet's endless rhyme, like the galaxies in time. If it's pleasing, then why can't it be never leaving? Like the day that never fails, like on seashores there are shells, like the time that always tells. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. So, if it's special, then with it, why aren't we as careful as making sure we dress in style, posing pictures with a smile, keeping danger from a child? It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. So, if it's magic, why can't we make it everlasting? Like the lifetime of the sun, it will leave no heart undone, for there's enough for everyone.
Ça, c'est tiré de Songs of the Key of Life, un album qui disons qu'il a vendu quelques copies de celui-là. Linda Gauthier, bonjour.
Bonjour, Luc Fortin.
Comment vas-tu? Mais merci beaucoup, toi aussi. Je voulais qu'on parle à Linda de Linda.
Oh, oui.
Comment va Linda?
Ben, Linda va très bien.
OK.
Et ben, c'est ça, elle a plein de projets. Des projets de prendre soin d'elle. Plus.
Oh! OK. OK. Mm-hmm. J'ai envie de commencer. Bon, tu n'as pas toujours été en fauteuil.
Non.
Moi, je sais que tu as beaucoup aimé danser.
Oui.
À une certaine époque.
Mm-hmm.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme deux Linda ou c'est juste la même Linda qui a, disons, revisité autrement une vie qui avait commencé différemment?
Ben, disons que oui, mais forcément, à cause de cette revisite-là, ben, c'est devenu deux Linda. Parce qu'il a fallu faire la coupure, là.
Mais est-ce que tu as changé à l'intérieur de toi?
Oui, absolument.
OK, donc, d'où le deux Linda.
Oui, exactement. Moi, j'étais assez... j'étais vraiment, chiante. C'était c'était moi qui il fallait que je passe, j'écrasais tout ce qui était autour de moi et tout ça. Puis okay. Je pense que le fait de devenir à un moment donné atteinte de sclérose en plaques et tout, a fait en sorte, et prendre le fauteuil, arrêter de danser forcément, a fait en sorte que ça m'a... Je me suis dit, bon, ben regarde, c'est quelque chose qu'il faut que je... J'ai quelque chose à comprendre là-dedans, là. Fait que là, j'ai fait le point, puis j'ai vu que j'étais pas gentille tout le temps. Et puis je me suis redécouverte là-dedans un peu aussi.
Qu'est-ce que tu faisais comme boulot?
Moi, j'ai toujours travaillé dans des services à la clientèle. Okay. À ce moment-là, je travaillais pour une institution financière.
Donc, tu servais le monde?
Oui.
Ce qui est encore pas mal ce que tu fais avec ta vocation, ton désir de défendre les droits des personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
Oui.
En même temps, ça doit être... En tout cas, tu le sais, là, je te l'ai souvent dit, moi, je serais pas capable. Là. Je trouve ça très frustrant, je trouve ça beaucoup trop long. Ça demande une certaine patience. Et j'entends que tu n'avais pas nécessairement cette patience-là. Comment tu as fait pour apprivoiser le temps que ça prend?
Ben, écoute, c'est parce que je me dis... On dirait que je savoure chaque... petite victoire, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je prends pas un non pour moi. Quelqu'un qui va me dire non, c'est pas on me ferme pas la porte. Pour moi, c'est un défi d'aller plus loin. Ça a toujours été, c'est la compétition, moi, qui me drive. Tu sais, c'est un peu ce que je faisais quand je dansais. Fait que maintenant, j'ai changé évidemment de terrain. C'est pas la même rumba, okay, qu'avant, mais je veux dire, c'est toujours la compétition qui m'amène à aller plus loin, puis de recommencer si on n'a pas réussi quelque chose. Tu sais. C'est toujours une quête, c'est continuel.
La chose qui a changé, pas nécessairement grâce à Linda Gauthier, mais dans lequel tu t'es battu avec d'autres dont tu es le plus fier.
Je dirais en gros, là, dont je suis le plus fier, si je prends ça macro, là, c'est une reconnaissance que je pense que les personnes qui ont des limitations n'avaient pas avant. Dans les 10 dernières années. Je pense que cette reconnaissance-là est plus marquée qu'elle l'était à l'époque. Okay. Puis ça, c'est à cause d'Execo. Même au Québec, le Rapplic. C'est un mouvement qui a fait en sorte que... Écoute, c'est-tu la poule ou l'œuf? C'est qui a commencé? On ne sait pas. Je sais qu'à un moment donné, nous, on a débarqué à l'Hôtel de Ville en 2010, au début de 2010. Et puis, je pense que c'est la première fois qu'il y avait vu autant de personnes handicapées en même temps. On devait être pas plus que 10 pourtant.
Hey, okay.
Mais ça a fait quelque chose comme... je pense que ça les a jetés à terre. Là. C'était l'époque de Gérald Tremblay. Et puis, il y avait toujours les partenaires villes qui étaient là, évidemment. Mais tu sais, en tant que revendicateur de nos droits, on était pas mal parmi les premiers. Là. Sinon, les premiers.
Et puis, le dossier qui avance pas, qui te fait le plus suer? Parce que justement, tu sais, vous en avez fait des représentations et ça bouge pas.
C'est la régie du bâtiment.
OK.
C'est vraiment ça, là. C'est comme... c'est vraiment... Je me réveille la nuit pour y penser.
Qu'est-ce que tu voudrais voir comme modification, comme...
L'abolition des exemptions, premièrement. Tu sais, il y a tellement de bâtiments exemptés en bas de 300 mètres... on n'est pas obligé de rendre ça accessible. Il faudrait que ça soit du cas par cas.
Et, OK.
Ben oui.
Et en plus, bon, quand c'est avant telle date, s'il n'y a pas de plainte et que ce n'est pas accessible, bon, le patrimoine...
Tout ça, finalement, tu sais. Tout ça, mais le patrimoine, c'est quelque chose qui peut être géré dans un gros dossier.
OK.
Selon moi, mais le reste, là, les petites picossines, c'est ça qui niaise et qui prend du temps, tu sais. Puis je sais pas si je vais voir ça de mon vivant, là. Mais ça avance à pas de tortue.
Linda, tantôt Benoît faisait allusion au fait que tu t'étais présentée à la dernière élection municipale montréalaise. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après l'élection? Ou parce que, bon, je me souviens, moi, d'avoir vu une certaine réaction de certaines personnes qui étaient surpris et peut-être plus ou moins d'accord avec ta participation. Est-ce que... T'en es où avec ça? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Ou...
Ben oui. Moi, il y a toujours un avant et un après. Tu sais, moi, je suis radicale. C'est blanc ou c'est noir. Hein? C'est pas mal ça. Avant, ben écoute, c'est sûr que les gens ont pensé que j'étais justement peut-être dans l'autre clan. Mais nous, on leur rappelait qu'on a toujours valsé avec qui voulait bien nous aider. On n'a jamais eu... Avant, on n'a jamais eu d'allégeance politique. Maintenant, on n'en a pas plus, sauf que les gens ne croient plus vraiment qu'on n'en a pas à cause que je me suis présentée avec l'équipe Coderre.
Mais le fait que tu te sois présentée, est-ce que lorsque tu fais des représentations, que ce soit avec la ville, est-ce que ça te nuit auprès de l'administration en place parce que tu étais avec l'opposition maintenant? C'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose?
Je ne crois pas.
Okay.
Je vais te dire pourquoi. Je ne suis pas toujours d'accord avec la mairesse. Loin de là, il y a des fois qu'on a souvent des choses, mais c'est une femme qui est ouverte d'esprit. Fait que ça, je peux considérer ça, puis c'est tout à son honneur d'ailleurs. En tout cas, moi, je pense que non, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter à ça.
Je pense que tu croyais que c'était terminé pour toi le Rapplic avec ta décision d'aller en campagne électorale. Et là, tu t'es retrouvée par choix, directrice générale, à nouveau du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. T'es encore bien avec ça ou t'es là parce que il y a personne d'autre?
C'est sûr, je suis contente parce que c'est sûr que j'aurais... Si, admettons, j'avais été élue, là, okay, j'aurais été à l'intérieur, tentant d'influencer comme je voulais, ok, plus avec plus de d'impact, peut-être la cause de l'accessibilité et tout, l'inclusion sociale, bon. Sauf que là, y étant plus, ben, j'aurais toujours pensé au réplique qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été encore une activiste. Fait que c'est sûr qu'en revenant, ben, en refaisant la même chose, je me sens, tu sais, dans ma zone de confort. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas personne qui voulait faire ma job. Puis on est quand même une petite équipe. Fait que c'était comme nécessaire que je sois là parce que je ne sais pas si ça avait pu continuer à la même vitesse. Tu sais, je suis quand même la seule qui va pas aux études à temps plein, qui travaille pas à temps plein, tout ça. Je suis vraiment à la retraite, donc je peux m'en occuper relativement à temps très plein.
Là, je vais marcher sur des œufs, Linda, mais je sais que depuis la non-élection, et ça n'a pas rapport avec le résultat, mais tu m'as dit, s'il n'arrive pas telle chose, moi, je ne poursuivrai pas avec le réplique. C'est trop lourd, c'est trop difficile. Bon, de toute évidence, tu es encore là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu as changé d'idée ou tu as obtenu ce que tu souhaitais, mais qu'est-ce que tu fais encore là?
Ben, c'est justement, j'ai pas encore obtenu ce que je souhaitais. On attend, c'est-à-dire des réponses. Mais c'est bien certain que si ça vient pas, on sait pas ce qui va arriver. Ça sera pas par manque de volonté. Je vais grincer des dents, mais je vais le dire. Il n'y a rien de y a pas de cachette. On n'a plus de sous.
OK. Et tu as fait des demandes. D'ailleurs, puisque tu en parles, il me semble que c'est en juillet que tu m'as dit on devrait avoir des résultats bientôt, des réponses bientôt de telle ou telle enveloppe budgétaire, puis on est rendu au mois de janvier?
Oui, on a eu une, mais je veux dire, ça n'a pas été ça. On pensait que c'était en rétroactif. Okay. Là, c'est pour la prochaine demande qu'on attend des nouvelles.
Donc, ça recommençait à chaque fois?
Oui, toujours, mais là, c'est la dernière.
Bon. Je voulais te parler longtemps, mais c'est à cause de Benoît Racette.
Oh! Hey, c'est ta faute! Non, mais moi, je veux dire bonjour, Linda.
Oui.
En fait, t'es essentiel dans toutes les années.
Benoît.
T'es essentiel dans toutes les années. Cette année aussi, peu importe que tu sois en politique ou dans le contre-pouvoir, on a besoin de toi.
Puis gros câlin, hein. Tu sais,
et moi, de vous autres, moi aussi, je vous embrasse.
Je te parle pas souvent parce que, Michel Bédard t'a subtilisé là, pendant que j'avais quitté Accès Libre. Il y en a qui ont fait du maraudage, puis maintenant, t'es rendu à Québec, alors que voulez-vous?
Je vous aime.
Lâche pas, Linda.
Amour.
Merci.
Nous, on fait une pause, puis ensuite, encore le micro à Benoît Racette.
Vous écoutez Accès Libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Christiane Campagna qui commence l'année d'Accès libre à la recherche. On va voir qui va terminer, parce que l'année passée, ça a été, Monique Anne-Laure, ça a été Catherine, Christiane a aidé, Benoît a aidé.
Non, mais l'important, c'est qu'on travaille en équipe.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. On n'a pas parlé du recours, parce qu'il est encore pending, comme diraient les Anglos, mais c'est vrai que le réplique et le recours collectif, c'est quand même quelque chose d'important.
Ben, pendant des années, la Commission des droits de la personne parlait de la nécessité d'aller vers une culture du droit, une culture de la défense des droits, puis de se décomplexer aussi par rapport au recours juridique. Le gain clair du réplique au Québec, c'est de nous avoir fait passer en ce mode-là, d'avoir ce recours-là supplémentaire. En fait, il n'y avait personne d'autre qui l'avait fait aussi bien, si ce n'est que Mme Barillé, est parmi les cofondatrices du réplique, de toute façon.
Avec Laurence, mon Dieu, j'oublie le nom de
Laurence Parent.
Oui, puis il me semble qu'il y a un anglophone aussi qui était
dans les fondatrices, j'ai oublié, je suis désolé.
On arrive à l'automne. Parce que, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, on fait un petit regard sur 2018, ce qui a fait la manchette du côté de la limitation fonctionnelle au Québec. Et, on avait fait une bonne partie de l'année. Là, on fait la deuxième partie. On veut peut-être commencer avec... toi, tu voulais parler de la défaite de Dave Turcotte.
Ben, en fait, c'est...
Je me souviens pas de cette histoire-là.
Bilan des élections, le retour de Marguerite Blais, qui est souvent défenseuse pour les personnes en situation de handicap, départ de Dave Turcotte, qui avait fini par être très adopté, surtout par les groupes familles, les groupes en déficience intellectuelle. Et donc, il a perdu aux mains d'un caquiste. Ouais. Donc,
évidemment, je voulais le souligner. Puis, en même temps, en étant bon prince, j'oserais dire, saluer son travail. Et aussi, changement de gouvernement. Donc, pas trop savoir quelles seront les couleurs de ce gouvernement-là face aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, ça a un peu mal commencé parce qu'il n'y avait personne qui était spécifiquement dépositaire de ce dossier-là.
Ouais.
Mais et là, finalement, c'est Marguerite Blais. Puis c'est sûr que l'accent est un peu plus sur la proche aidance. Puis
les aînés, en tout cas, c'est sûr qu'elle a... Elle a...
Voilà.
Oui.
Mais sinon...
Mais c'est une femme de cœur. Ça, on n'en doute pas.
C'est une femme de cœur, ça va être une alliée sur des dossiers, c'est certain.
Ouais.
Je suis obligé de le dire, même si vous comprenez bien que je suis à la fois le juge et parti. Et il faut rappeler aussi que seul Québec solidaire a présenté une plateforme spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. Et surtout, la présentation ou la proposition d'une loi, plutôt de la reconnaissance de la LSQ, puis une loi sur l'accessibilité universelle.
Et justement, bon, comme Marguerite Blais a écrit, je pense, ces deux titres, deux ouvrages sur la surdité, est-ce qu'on connaît son opinion sur le sujet? Pas nécessairement, bon, on sait que la CAQ, c'est pas nécessairement avancé là-dessus, mais est-ce que c'est le genre de personne qui pourrait... à l'intérieur, essayer d'influencer pour que la reconnaissance de la LSQ...
Moi, je tablerais là-dessus.
Okay.
Mais c'est sûr que la dernière fois qu'elle s'y est penchée, elle était d'accord avec certaines modalités. Là. Peut-être pas un aménagement linguistique important, tout ça, mais c'est sûr que c'est une alliée. C'est certain.
Ouais.
Sinon, il y avait du côté fédéral aussi, on n'oublie pas que pendant l'été a été finalement déposé C-81, la loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles, puis elle a été adoptée le 27 novembre, donc après les élections. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais bon, il y a un observatoire, il y a des normes qui sont à définir. Donc, on est encore à regarder en avant, en espérant qu'il y aura vraiment une mise en accessibilité du Canada.
Mais ça aussi, il va falloir attendre un peu, comme tu le dis. Adhésion du Canada aux droits des personnes handicapées là, au niveau de...
En fait, c'est le protocole facultatif, parce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est une des plus belles conventions.
Okay?
Elle vient avec un protocole de suivi, puis ça fait que les États, ils peuvent retourner aux Nations unies, ou même les personnes peuvent porter plainte, etc. Donc, le protocole, on y a adhéré à ça au Canada. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une pogne de plus pour les citoyens et citoyennes qui vont porter plainte. On n'est pas obligé d'en parler plus. On a passé 20 minutes à s'obstiner déjà précédemment.
Ben, c'est ça, on avait déjà abordé le sujet. Bon, il y a pour les gens de Montréal, la continuité de l'implantation là, au niveau du transport adapté.
Oui.
De quelque chose qui s'en vient où on va nous informer à quelle heure ils vont nous attendre. Puis on n'est plus obligé de sortir comme je l'ai fait ce matin, puis attendre trois quarts d'heure à moins 15 degrés.
Ça aussi, ça va venir. Puis c'est des bonnes questions pour Laurence Parent. Et moi, j'avais envie, juste avant, parce que on ne sait pas ce que la CAQ va donner, mais il y a eu un très bon coup qu'il faut souligner. Ok, le CIUS du nord de l'île de Montréal avait arrêté d'offrir des services de soutien à domicile. Donc, c'est à Montréal. Et il en avait fait l'annonce. Des groupes comme Ex-Éco, le Récif et le Regroupement des aidants naturels du Québec avaient dénoncé ça le 5 décembre dernier. Eh bien, la ministre McCann, qui est évidemment responsable de la santé, mais aussi du soutien à domicile, a réagi tout de suite en disant qu'elle n'accepterait pas ça. Il faut se rappeler que la CAQ s'est engagée à mieux financer le soutien à domicile. Donc, ça a été une assez bonne nouvelle, une bonne réaction de la part de la nouvelle ministre en santé pour le soutien à domicile, qui est certainement un dossier important là, pour les personnes en situation de handicap et les proches.
Et ça, c'est moi qui le dis. Là, je ne veux pas te placer dans une situation où t'es, comme tu disais, bon, pour ceux qui l'ignorent, là, tu t'es présenté à l'élection provinciale pour la bannière de Québec solidaire.
Notamment, oui.
Pourquoi t'as-tu fait plus qu'un parti?
Oh non! Oh non, moi, je change. Moi, je suis à gauche.
Notamment. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu l'hécatombe que certains annonçaient. Et deuxièmement, on dirait que, en tout cas, Monsieur Legault, lorsqu'on l'entend, on dirait que c'est juste le bon sens. Tu sais, quand il parle, c'est pas technocrate, c'est pas... donc, ça va être intéressant de voir, je pense que c'est vraiment en 2019, là, avec le prochain budget, puis tout ça, ils vont s'installer.
Ben, en fait, le seul talon d'Achille, c'est le recours au privé. C'est là où il va y avoir les vrais tests, parce que ce gouvernement-là est plutôt favorable au recours au privé. Mais ceci dit, il y a des engagements clairs pour les proches aidants, pour le soutien à domicile, les maisons des aînés, quelque chose de plus humain. En tout cas, il va y avoir du privé, mais peut-être qu'on va faire les choses autrement. Il faut observer.
Ray Charles en musique. Et pendant ce temps-là, Jean-Sébastien fait un appel dans le 418. N'oublie pas de faire le 1 avant, Jean-Sébastien.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Au début du mois de décembre, on a commencé à jaser d'adaptation psychologique au handicap ou à la perte de l'usage d'un membre, d'un sens, avec François Côté, qui est psychologue du côté de Québec. Salutations, François.
Bonjour, Luc.
Merci beaucoup d'être là encore.
Toi... Ça me fait plaisir. Je prends le temps de m'asseoir après avoir dansé sur
oui.
Les Charles en attendant mon tour.
1 minute 55.
Et... À
bon,
peu près.
On n'a pas le temps de s'essouffler, mais c'est vrai que c'est énergisant.
Tout à fait.
Tu disais la dernière fois qu'on s'est parlé que entre 20 et 23 % selon des études, des gens à la naissance pouvaient peut-être être un peu plus fragiles au niveau du caractère, au niveau de faire face aux événements. Et donc, évidemment, pour ces gens-là, s'il arrive un changement important comme une maladie, comme un handicap, c'est vraiment pas évident. Comment détecter si la personne fait partie de ces 20 ou 23%-là versus quelqu'un qui fait juste... s'apitoyer sur son sort?
Ben, en fait, on pourrait dire, et tout ça n'est pas tranché au couteau, hein, on est sur un continuum beaucoup plus que sur un escalier à marche très défini, là. Et peut-être le critère le plus facile à repérer, et pour soi-même et pour nos proches ou ceux qui ont à accompagner comme professionnels, je dirais, c'est l'anxiété. C'est des gens qui vont vivre un degré d'anxiété plus fort pour un même événement. Donc, on s'entend que dans un processus d'adaptation ou de réadaptation, ben, on est souvent dans de l'exploration, dans de la nouveauté. Alors, tout ce qui est nouveau va être plus stressant. Tout ce qui est imprévu va être plus stressant. Alors, quand on vit avec une limitation fonctionnelle, ben, on fait face souvent à des imprévus.
Ouais. Maintenant, pour les gens qui veulent accompagner ces personnes-là, à la fois, tu ne veux pas trop les secouer en disant « vas-y, vas-y, t'es capable » parce que tu veux être empathique. D'un autre côté, tu ne veux pas non plus, disons, pas les dorloter, mais être tellement à l'écoute qu'ils se confinent dans cette inquiétude-là, puis tout ce qu'ils veulent, c'est être compris, comment c'est difficile et comment,
oui.
Lorsqu'on est proche, savoir réagir proprement.
En fait, c'est toujours une question à se poser, voir dans quelle mesure, de par la relation que j'ai avec la personne, je suis la bonne personne pour aider. Mm-hmm. Est-ce que moi, je suis confortable de le faire ou pas? Et on n'est pas obligé, parce qu'on est proche, de prendre sur soi. Maintenant, c'est à la fois important d'être à l'écoute de l'anxiété de la personne, surtout quand c'est récent, comme soit que c'est accidentel, oui, ou qu'il y a un diagnostic qui vient de tomber. C'est sûr que la première phase, c'est humain que l'anxiété bien soit sûr plus forte. Mmh. Donc, il y a une phase d'écoute extrêmement importante où là, l'expression du malaise, de l'anxiété, des peurs va être importante. Maintenant, c'est aussi important de pas se gêner pour supporter la personne et l'encourager. Et l'encourager des fois fortement, parce que il y a des moments où ça peut pas venir de l'intérieur tellement on est anxieux. Et le coup de pouce, la petite tape dans le dos va être la bienvenue. Oui. Peut-être que le coup de pied aux fesses serait, lui, trop, serait exagéré, mais la tape dans le dos va être bienvenue. Et par moment, ça va demander, ça va être nécessaire que ça vienne. Et quand on se sent pas comme proche capable d'accompagner la personne, on peut grandement l'inviter à consulter. Il y a des professionnels en réadaptation, il y a des professionnels au plan psychologique. Alors, quand on se sent débordé, on peut inviter l'autre. Écoute, t'as-tu pensé te faire aider? Parce que là, parce que l'anxiété, ce que ça provoque, entre autres, c'est des réactions d'évitement. Alors, la personne va se trouver toutes sortes de bonnes raisons pour pas aller à telle sortie, pas aller à tel spectacle. Ah, il y a trop de bruit. Ah, je pense que j'ai d'autres choses cette fin de semaine-là. Et de plus ça va, plus la personne se retire, s'isole avec des bonnes, avec des raisons qu'elle se donne. Et c'est dans ce temps-là qu'on a à intervenir pour dire, je pense que là, tu t'isoles, tu trouves des raisons. Mais ce serait peut-être important de faire face et de, par contre, de pas laisser la personne seule là-dedans, oui, de faire face accompagnée. On peut offrir à la personne, écoute, si tu veux te rendre au centre de réadaptation, voir ce qu'ils peuvent t'offrir, hey, moi j'ai congé mardi, je peux y aller avec toi, ça va me faire plaisir. Donc, on supporte la personne dans sa démarche, mais on la laisse pas s'enliser.
Est-ce que de se trouver un projet, de se trouver une destination, à savoir, j'aimerais dans un an, supposons, marcher si c'est possible, ou j'aimerais d'ici deux ans me trouver un sport ou me trouver un loisir, une passion, et là ensuite je fais petit pas par petit pas pour arriver là. Est-ce que ça c'est plus à propos pour quelqu'un qui serait dans le 20%, disons, plus confiance, ou même pour les gens qui ont cette fragilité-là, cette anxiété-là, c'est quand même envisageable de se tracer une feuille de route?
C'est aidant, et plus la personne est anxieuse, plus ça va être important de portionner en petites, okay, en petits segments.
Des petits objectifs. Là,
oui, des plus petits objectifs qui vont... parce que l'ensemble de la route va créer un stress, mais quand c'est réparti en plus petites phases, ça devient plus digestible.
La fameuse une journée à la fois, là.
Oui, et avec ces personnes-là, entre autres, ça va être important, parce que plus l'anxiété devient forte, plus ça devient difficile de planifier ce qu'on appelle dans le jargon en psychologie, là, les fonctions exécutives, là, réfléchir, planifier, organiser des étapes, voir plus loin, portionner, ça devient plus difficile. Donc, vaut mieux, dans ce temps-là, se donner des projets plus abordables, à court terme, qui vont s'inscrire éventuellement dans un projet à plus long terme. Et c'est sûr que la première phase de choc étant passée, il y a souvent une phase un peu plus dépressive, parce que là, on mesure l'ampleur de ce qu'on perd, mais on n'a pas encore trouver des nouvelles ressources pour nous donner de l'espoir. Alors, il y a une phase souvent là, de dépression qui va suivre la phase plus de choc. Et après, là, on en arrive à la phase plus d'action auquel tu fais référence. Mmh. Et là, on est plus disponible à se faire des projets, à se planifier des objectifs, autant au niveau personnel, au niveau sportif, au niveau études, au niveau travail.
Ouais, mais c'est là où, en terminant, je trouve que le proche peut servir justement d'essayer d'aider la personne à réfléchir sur « OK, maintenant, tu veux quoi de ta vie? C'est bien beau, là, on est déçu, on a mal, tout change, mais... maintenant qu'on a tenu compte de ça, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, ça peut être intéressant que ça vienne de l'extérieur, cette question-là, parce qu'on est tellement près de l'arbre qu'on voit plus la forêt, là, qu'on voit même plus les petits sentiers pour circuler dans la forêt. On voit juste tous les arbres.
Oui, et là, les proches peuvent être un support là aussi d'en dire, ben écoute, allons-y avec les rêves, qu'est-ce que tu aimerais? Puis on va voir comment on peut les concrétiser, comment on peut les ramener, les retraduire dans le quotidien par des étapes là, de fonctionnelles, d'apprentissage qui vont t'amener là. Et effectivement, là, les proches peuvent être d'un grand secours là, à ce niveau-là.
Merci beaucoup, François Côté.
Ben, ça m'a fait plaisir, Luc.
À bientôt. Le duo Amadou et Mariam sur Canal M, la radio de Vues et Voix. J'espère qu'ils n'ont pas été payés au mot parce qu'ils ne gagneront pas beaucoup d'argent avec cette toune-là. Laurence Parent, bonjour.
Bonjour.
Laurence, est-ce que tu es encore doctorante en sciences humaines à l'Université Concordia?
Oui, pour 3 semaines environ.
Okay.
Je vais bientôt soutenir ma thèse fin janvier.
Aïe. On voulait parler de capacitisme aujourd'hui, du moins moi je voulais t'en parler parce que je sais que c'est un concept qui te tient à cœur et j'ai beau lire des articles sur le sujet, j'ai un petit peu de difficulté encore à comprendre d'où vient le concept et qu'est-ce que le concept de capacitisme.
En fait, si on simplifie le plus possible, le capacitisme, c'est le terme qui est utilisé pour parler de discrimination fondée sur le handicap.
OK.
Donc, c'est ça. Donc, il y a une professeure de l'Australie, Fiona Campbell, qui, elle, définit le capacitisme comme étant un système de croyances, de processus, de pratiques qui va produire un citoyen qui est capable, par exemple, de travailler 40 heures semaine, qui est capable de contribuer à la société d'une certaine façon très précise. Donc, c'est là qu'on voit que, dans le fond, tout ça est vraiment influencé par la société. Tu sais, parce qu'on pense souvent que le handicap, c'est quelque chose ben, que souvent qu'il soit biologique ou un accident, quelque chose du genre, et qui est un phénomène comme étant neutre et naturel. Alors que dans le fond, ce que le concept de capacité amène, c'est toute la dimension sociale, culturelle qui produit le handicap. Donc, autrement dit, le handicap en 2018, c'est pas la même chose que le handicap au 17e siècle, par exemple. C'est pas la même chose que le handicap dans 300 ans. On sera pas là pour s'en parler, mais ça va avoir changé. Donc, c'est dans le fond tout le système qui fait en sorte que les personnes handicapées sont traitées, perçues d'une certaine façon.
Bon, je lisais, je pense que c'est toi qui donnais cet exemple-là dans un des articles que Christiane m'a soumis pour la préparation de cette entrevue, à savoir, bon, le fauteuil roulant, je ne suis pas confiné au fauteuil, au contraire, je suis libéré par celui-ci. Et moi, je me disais, mais c'est juste une perception qui est différente. C'est le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Parce que dans les deux cas, c'est pas faux.
Ben, moi, je me sens pas confinée par le fauteuil roulant. En fait, c'est qui? Dans le fond, c'est que les mots ont beaucoup de pouvoir.
Okay.
C'est ça. C'est, dans le fond, c'est de dire que qu'est-ce qu'on entend quand on dit qu'une personne est confinée dans un fauteuil roulant? Moi, ce que j'entends, c'est limitatif.
Limitatif.
Qui doit être confiné.
Ouais.
Être confiné, c'est négatif, c'est être en prison. C'est, donc, il y a énormément de choses qui vont découler de ça. T'sais. Donc, non, je pense pas que ce soit la même chose. Comme si on dirait qu'une femme est confinée à son sexe féminin inférieur, par exemple. T'sais. Donc, il y a beaucoup de connotations dans notre langage et souvent passent, souvent inaperçues, justement, parce qu'on n'a pas encore vraiment réfléchi à ces concepts-là de handicap. C'est quand même fascinant de se dire qu'au Québec, la plus grande proportion de plaintes à la Commission des droits de la personne, on dit souvent à Canalet, mais à votre émission, c'est le handicap. Mais malgré ça, on n'a pas encore... moi, c'est souvent ça que je dis par rapport au catastrophisme, c'est de mettre le mot sur le bobo. C'est parce que c'est pas un hasard là, si la majorité des plaintes sont en lien avec le handicap au niveau du Québec, au niveau du Canada aussi. Dans le fond, l'objectif de ça, c'est de mettre un mot. Puis c'est quand on met un mot, selon moi, et pas juste moi, là, plusieurs chercheurs et activistes, mais c'est important pour pouvoir nommer un phénomène. C'est ce qu'on a fait avec le sexisme. Le concept de sexisme n'a pas toujours existé. Tu sais, il y a celui des gens, des femmes qui se sont... D'ailleurs, en 1963, il y a une féministe qui avait publié un livre qui disait « The problem that has no name ». Donc,
ah,
le
oui.
problème qui n'a pas de nom. Donc, Betty Friedman. Et suite à ça, bon, finalement, il y a un mot qui est ressorti de l'eau. Mm-hmm. La même chose avec le racisme aussi. Tu sais, je pense que ça aide beaucoup. Puis, bon, il y a toutes sortes de controverses, toutes sortes d'écoles de pensée, évidemment. De trouver un mot, c'est pas... je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte que les personnes handicapées vont vivre en toute égalité avec tout le monde.
Mais je suis curieux, justement, parce que, bon, tu disais, par ailleurs, dans un autre texte, que dans tes études à Toronto, à York, entre autres, il y avait plusieurs mots anglophones qui expliquaient cette réalité-là. Est-ce que le capacitisme est une expression, disons, reconnue, disons, dans la francophonie, ou comment avons-nous établi... appelons ça le capacitisme.
Ben, c'est une bonne question. Précisément, je pourrais pas vous dire. J'ai été surprise de voir que l'Office québécois de la langue française avait ajouté à son dictionnaire terminologique le capacitisme en 2002.
Ah oui!
Oui. Donc, en 2002, la définition était la discrimination fondée sur les capacités physiques. Alors que dans la recherche, dans la communauté, on s'est pas limité au handicap physique, mais moi, ça m'a surpris de voir que déjà en 2002, ça avait fait son chemin quelque part à l'Office québécois de la langue française, alors que dans le quotidien, on le sait, c'est pas utilisé. Même dans la recherche, l'Office des personnes handicapées, à ma connaissance, n'utilise pas encore ce concept-là. Donc, il y a des liens qui se trompent pas visiblement. Là. Puis au niveau de la francophonie, en France, on parle pas de capacitisme, on parle de validisme.
Okay.
Donc, c'est là qu'on voit...
Ouais, ben, on est très valide et invalide. Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est que là-bas, c'est le terme qui est utilisé. Au Québec, ça ne fonctionnerait pas, il y aurait un décalage. Donc, et c'est beaucoup utilisé en France par les militants sur les médias sociaux, plus qu'au Québec. Mais dans les dernières années, on en a parlé de plus en plus du capacitisme. mais ça demeure quand même un terme là, qui, au quotidien, est loin d'être utilisé. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire pour que le vulgariser. Puis encore une fois, c'est pas une recette miracle. Comme on dit, le sexisme, c'est pas parce qu'on a trouvé un mot que ça n'existe plus. Là.
Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est moins laborieux que la discrimination à l'égard du handicap et blablabla, qui semble assez technique, assez... Alors que là, on dirait que ça, à défaut d'une meilleure expression, là, ça fait mainstream, ça fait... ben, j'allais dire ça fait 2018, ça fait 2002.
2019, ouais, 2002. Ça, mais c'est ça, c'est que ça permet de plus facilement mettre un mot sur un problème, puis de politiser aussi la chose. Puis c'est longtemps, au Québec encore, aujourd'hui, les enjeux d'handicap sont très peu politisés.
Ouais, ouais.
On le sait, là, dans les médias en général, cette pauvre personne qui vit dans un CHSLD, encore aujourd'hui... On parle de l'aide médicale à mourir. Là. Je viens de lire un article sur Radio-Canada.
Faut que je te laisse. C'est un autre dossier, mais oui, il faut que je te laisse. Bonne chance pour ta soutenance.
Merci.
Laurence Parent, merci. Linda Gauthier, Benoît Racette, François Côté, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna. Merci à tout ce monde-là. À la semaine prochaine.